Bonsoir à tous. J'aimerais introduire ce message en faisant la lecture de deux versets que nous trouvons dans le livre des psaumes. Dans le psaume 51, le verset 19, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. » Dieu regarde à notre cœur. On aurait pu le lire aussi, ce verset. Dieu regarde à notre cœur. Et ce qu'il regarde, ce n'est pas l'aspect extérieur, c'est le fin fond de notre être. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Est-ce qu'il y a dans notre cœur quelque chose qui montre qu'on le cherche? Ou est-ce qu'il y a dans notre cœur quelque chose qui prouve une sorte de satisfaction personnelle? Est-ce qu'il y a un esprit de vouloir se justifier, se donner des excuses? Ou est-ce qu'il y a dans notre cœur un esprit qui cherche simplement, honnêtement, devant Dieu, à reconnaître son erreur, à reconnaître qu'il a pu se tromper dans tel ou tel domaine? Le deuxième texte que j'aimerais lire avec vous, dans le psaume 34 cette fois-ci, le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Ce soir, si tu te sens malheureux, malheureuse, si tu es honnête avec toi-même, avec ce qu'il y a dans ton cœur, approche-toi du Seigneur parce que il veut te délivrer de ce qui te fait peur. Il veut te délivrer de ce qui peut-être mine ta vie, qui fait que tu te sens, que tu te retrouves dans cet état-là. J'aimerais maintenant qu'on puisse voir l'histoire d'une femme qui était dans cet état d'esprit-là. Une femme qui vivait ce malheur, une femme qui vivait à l'intérieur cette souffrance. Et là, on va la trouver dans l'histoire de Josué, au chapitre 2. Au chapitre 2. On ne va pas tout lire le chapitre, on va lire quelques morceaux. C'est l'histoire de la prise de Jéricho. Israël est un outil dans les mains de Dieu pour frapper de jugement le peuple qui se trouvait sur le territoire de Canaan. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple qui avait amoncelé des actions abominables aux yeux de Dieu. Et à un moment donné, la patience de Dieu a pris fin. Et le peuple d'Israël est l'image du jugement de Dieu. Il est l'image de ce que Dieu utilise pour accomplir son jugement quand la patience de Dieu est arrivée à son terme. Et il y a une image de ce qui nous attend tous un jour. Un jour, il est question d'un jugement aussi. Est-ce que nous serons sous la coupe du jugement, ou est-ce que l'état de notre cœur, cette sincérité de cœur, nous permettra d'échapper? C'est là toute la question et c'est là toute l'histoire. On va le voir. Ici, au chapitre 2, Josué, fils de Noun, envoya secrètement de Shittim deux espions en disant « Allez voir le pays et Jéricho ». Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » On imagine de suite l'intention du roi de la ville envers ces deux espions, bien sûr. Il voulait les avoir, c'était pas pour leur offrir à manger. On est tous d'accord. Verset 4. Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha. Cette femme a caché ces deux hommes. Elle a senti dans son cœur qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose pour eux. Mais on va le voir. Il y a quelque chose certainement qui l'a amené ainsi à collaborer, entre guillemets, avec l'ennemi de Jéricho. L'ennemi local, c'était Israël. Cette femme, on va le voir, avait déjà dans son cœur des sentiments. Elle avait déjà un cursus qui l'a amenée ainsi à être une aide pour ses espions. Je continue la lecture au verset 9. Regardons un peu ce qu'elle dit. Elle dit à ses hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. » Je ne sais pas d'où elle le sait, mais « La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des joncs lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les deux rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sion et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut et sur la terre, ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel, comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi vous userez de loyauté envers ma famille, vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. » On arrive au verset 18. Verset 17, « Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons à faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate, rouge, à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et groupe auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête, et nous autres serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. » Continue verset 21, elle dit, « Qu'il en soit selon votre engagement. » Elle les laissa partir et ils s'en allèrent. Elle attacha, elle n'a pas traîné apparemment, elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. On va passer au sixième chapitre. Au sixième chapitre du livre, il y a tout ce qui s'est passé concernant la prise de Jéricho. On ne va pas lire ce passage. Le peuple d'Israël a fait le tour de la ville plusieurs fois et à un moment donné, à la clameur, c'est ce qu'on va lire, à la clameur du peuple, le septième jour, après sept tours, le septième jour, les murailles s'écroulent. Au verset 20, le peuple poussa des clameurs, et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même, et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'interdit, au fil de l'épée, tous ceux qui étaient dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, bœufs, moutons et ânes. Josué avait dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays, « Allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui avez fait le serment. » Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents. Ils les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Verset 25, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qu'elle appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. Elle a intégré le peuple d'Israël à tel point qu'elle est dans la lignée de la naissance de Jésus-Christ. C'est une belle histoire quand même quand on réfléchit à son sort, bien sûr. Parce que pour tous les autres, malheureusement, c'est une histoire qui reste dure. Cette femme, quelle est son histoire? Elle vit à Jéricho. Jéricho, c'est une ville, je dirais, clé dans l'invasion du peuple, parce qu'ils vont dire qu'ils vont envahir Israël par le côté, et ils vont pouvoir avoir ainsi accès au nord et au sud. C'est une région montagneuse, il n'y a pas beaucoup de chemin, et pour pouvoir aller dans le pays d'Israël, il fallait passer par Jéricho. Or, Jéricho était plein de murailles, etc., et c'était difficile. Jéricho, sa position faisait aussi que c'était une ville riche. Donc si on voulait passer du nord au sud, si on voulait monter d'Égypte pour aller jusqu'en Syrie, il fallait passer par Jéricho, il n'y avait pas le choix. Ce qui faisait que dans cette ville, il y avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup de commerces. En plus, dans cette ville, il y avait un climat tropical. Ça s'appelle, la Jéricho, ça voulait aussi dire la ville aux palmiers. Le miel, d'ailleurs, dont il est question, quand on dit le pays d'où coule le lait et le miel, on pense qu'il ne s'agit pas du miel des abeilles, mais plutôt du miel des dattes qui coulent des palmiers. Et Jéricho en est l'image parfaite, une ville où, finalement, il y a, matériellement parlant, aucun souci à se faire. C'est une région où il y avait absolument tout. C'est une région où le temps, le climat était toujours excellent. Il y avait un microclimat, il y a toujours d'ailleurs. C'est une ville où se côtoient les arbres d'été et les arbres d'hiver. C'est rare, comme en Galilée. Jéricho est en Galilée. C'est une ville où il y a une abondance sans précédent. Et malgré cette abondance-là, se trouve une femme qui est obligée de se prostituer. Nous aussi, on est dans l'abondance. On a tout ce qu'on veut. On peut le dire quand même quand on pense à tous ces pays où, dès le matin, c'est la lutte pour survivre jusqu'au soir. Je crois qu'ici, là, en France, on en est bien loin. Nous sommes dans une abondance. Dans une abondance sans précédent. Et pourtant, comme cette femme, il y en a qui sont dans des états intérieurs, qui sont vraiment malheureux. Je ne sais pas ce qui peut conduire une femme ici. Elle pourrait... On ne connaît pas l'histoire. Mais quand on en arrive à se prostituer, la situation, je pense, est bien grave. On imagine la souffrance. A-t-elle été mariée? S'est-elle retrouvée veuve? Elle n'avait plus d'argent, n'avait pas d'enfant. Il n'est pas question d'enfant, d'ailleurs, de cette femme dans la famille. Elle était sans enfant. Peut-être qu'elle n'avait absolument aucun revenu et que c'était compliqué. Et c'est la voie qu'elle avait choisie. Je ne veux pas essayer de chercher des explications, mais il me semble qu'il nous doit être bien difficile d'être heureux quand on en est rendu à se prostituer. Elle est rendue dans cet état-là, alors que tout autour d'elle, il n'y a qu'abondance, et elle n'a rien. Et elle est obligée de se vendre pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir survivre. Quelle souffrance! On imagine d'ailleurs que si Israël est utilisé pour juger ce peuple, c'est bien parce que à l'époque, la compassion, ça ne devait pas tellement exister. À l'époque, chacun essayait de tirer son épingle du jeu. Chacun essayait de tirer la couverture à lui-même. Chacun était dans son égoïsme, dans le mal qu'il pouvait faire, et essayait finalement de s'en tirer mieux que les autres. Voilà la vie qui était là-bas à l'époque. C'était une vie, la vie du chacun pour soi. On n'en est pas loin aujourd'hui. Dans ce peut-être pays socialiste, certes, mais c'est bien parce qu'on est obligé. Hein. La libéralité, c'est pas souvent qu'on la trouve. Cette femme, elle est condamnée doublement parce qu'elle a appris qu'un jugement sur sa propre ville allait venir. Elle est condamnée parce que dans sa situation, elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle n'a rien, elle est obligée de se vendre. Et elle est condamnée parce qu'elle sait que son peuple est voué à l'interdit. Son peuple a commis l'irréparable. Et elle se sait condamnée. Nous sommes tous de la même manière, sous une condamnation identique. Cette condamnation, la prostitution en est l'image, c'est le péché qui est en nous. Cette condamnation qui fait que devant Dieu, nous sommes perdus. Devant Dieu, on ne peut pas se racheter, parce qu'il y a forcément en nous quelque chose qui nous empêche de pouvoir espérer être auprès de lui. Et ce quelque chose, ça s'appelle le péché. Ce quelque chose va peut-être te pousser à te prostituer sur, je ne parle pas d'une prostitution littérale, mais te prostituer sur des choses qui vont t'amener, où tu vas y mettre toute ta vie. Quelque part, ça va devenir ton Dieu, ça va devenir ce qui te dirige, ça va devenir ce à quoi t'aspires, ça va devenir ta raison d'être. C'est ce quelque chose-là qui va aspirer toute ton énergie, qui va aspirer toutes tes forces. Peut-être que tu es enclin à réfléchir, même à se dire, Moi, j'aimerais goûter aux choses de la vie. Peut-être que tu risques de te lancer dans des chemins qui pourraient te faire souffrir, mais pour l'instant, tu n'en vois que l'éclat, que les paillettes, tu ne vois que ce qui est beau, la face pile de la chose, et tu es dans la tentation. Et sans t'en rendre compte, tu pourrais glisser et te retrouver lié. Le Seigneur voudrait éviter ces choses. Et cette histoire-là nous montre à quel point Dieu est soucieux de sauver celui qui, devant lui, a un cœur droit. Cette femme, on le voit au verset 9, elle a cru des paroles difficilement croyables. Il faut le dire quand même. Surtout que ce sont des paroles qui commencent à dater. Le peuple d'Israël a erré une bonne quarantaine d'années dans le désert. L'histoire de la mer qui se fend en deux, c'est pas tout le monde qui le croit. Encore aujourd'hui, beaucoup le mettent en doute. Et elle y croyait. Elle reconnaît ainsi le fait que l'Éternel existait déjà d'une part. Ça veut quand même dire que pour le reconnaître, elle s'est quand même posé la question. Elle avait une démarche spirituelle. Et cette femme reconnaît que son peuple ne valait pas le coup, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, mais qu'il était digne du jugement de Dieu. En d'autres termes, elle se mettait dans le lot aussi, hein. Elle ne disait pas qu'elle aussi, elle ne devait pas faire partie de ce jugement. Elle reconnaît simplement qu'elle et son peuple sont voués à l'interdit. Ce qui est voué à l'interdit, une fois de plus, c'est une autre expression pour parler du péché. Je suis voué à l'interdit si le péché est en moi. Parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. Si dans mon cœur il y a un péché, peut-être que comme les pharisiens, d'ailleurs, la coupe extérieure est belle, mais à l'intérieur, c'est tout moisi, c'est tout plein de péchés, d'hypocrisie, de jugement ou autre, d'envie. Si je le cache, je péris avec mon péché, hélas. Parce que je ne peux pas dissocier mon péché de moi-même, c'est pas possible. Il n'y a qu'une seule chose qui va me permettre d'échapper au jugement, c'est de réparer cette affaire de péché sur cette terre. Et ce n'est pas moi qui le répare en plus, c'est Dieu lui-même qui a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus. On va y venir tout à l'heure pour nous sauver. C'est lui qui va porter notre corps humain et qui va mourir d'une manière injuste, lui qui était pur, lui qui était sans tache. Il va donner sa vie pour que nous puissions être recouverts, être couverts, que Dieu ne voit plus le péché qui sort de nous. Avec cette couverture-là, on sera protégé de ce regard. On voit ici la peur que cette femme avait. Elle avait une peur. Elle avait la peur du jugement. Elle parle de terreur. La terreur, c'est plus fort que la peur. Quand on est terrorisé, on ne fait plus rien. On a ses jambes pour trembler. Et c'était l'état d'esprit du peuple. Elle dit au verset 11, le cœur nous a manqué. Chacun a perdu le souffle. Le peuple, ici, attendait en tremblant le moment où Dieu allait intervenir pour juger. Cette femme, elle est honnête sur elle-même, parce que elle s'implique dans ce qu'elle dit de son peuple, et elle ne dit pas que elle est meilleure que les autres. Et il y a ici, c'est pour ça que j'ai lu ce texte en introduction, parce que quelque part, elle est déjà dans un travail de reconnaissance de son propre péché. Et elle est déjà justement dans une attitude où finalement, qui sait ce qu'elle attendait avant que les espions arrivent? Ils sont tombés à point nommé, comme on pourrait dire. Peut-être même qu'elle les attendait, qu'elle espérait, elle, en échapper de ce jugement. Elle savait qu'il allait venir, mais peut-être que dans son cœur, à l'intérieur, elle espérait qu'elle pourrait en réchapper. Et peut-être que dans son cœur, elle a fait cette prière, « Seigneur, sauve-moi, je regrette mon péché. » Et on voit que le fait même, on va le lire, je vais vous le citer dans le livre de Jacques, Jacques au chapitre 2, Jacques le dit très bien, que finalement cette femme, ce qu'elle va faire pour ses espions, ça démontre une certaine chose. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin ? C'est Jacques qui pose la question. En d'autres termes, elle le fait par la foi. Si elle le fait par la foi, ça prouve qu'avant même que ces espions arrivent, elle avait déjà crié à Dieu dans son cœur. Elle voulait déjà que sa situation change. Dans son cœur, elle avait peut-être déjà même demandé pardon à Dieu. Et quand ces espions-là sont arrivés, c'était l'occasion que Dieu lui donnait pour enfin arriver à échapper au jugement. Et cette occasion, elle l'a saisie. Elle les a hébergés. Et le fait qu'elle les a hébergés, qu'elle les a protégés, prouve la foi qu'elle avait en celui qui était capable de la faire échapper au jugement. Cette femme, elle a eu ce serment avec les espions. Elle les a protégés et elle a fait cette prière qui, non sans rappeler, celle du brigand sur la croix, ce serment qu'elle demande, ce brigand qui dit « Souviens-toi de moi ». Il a reconnu sur la croix, ce brigand, qu'en Jésus, il y avait quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur une croix. En Jésus, il y avait celui qui était le sauveur des hommes. Il craignait Dieu. Il reconnaissait le fait que lui méritait d'être sur une croix, comme cette femme. Mais que Jésus, il n'avait rien à y faire. Il le reconnaissait. Et il le reconnaissait ainsi pour Dieu. Et il va apprendre, à travers cette merveilleuse parole de Jésus, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce brigand, qui était quand même un brigand, qui était là justement sur une croix, qui avait accompli des crimes atroces. Ah, c'est sûr que la coupe extérieure, elle n'était pas belle. Comme cette femme, d'ailleurs, elle se dit de toute manière, « Extérieurement, j'ai rien à démontrer. Ma vie est ce qu'elle est. Je suis qu'une prostituée. » Peut-être qu'elle se définissait comme ça, d'ailleurs. Que son nom avait disparu, d'ailleurs, si on a son nom quand même. Mais vous avez remarqué que le mot prostituée est avant même son prénom. Cette femme était définie par ce qu'elle faisait. Et ce brigand sur la croix, c'est la même chose. Il était le brigand. On n'a pas son nom, lui, même pas. Et Jésus, il est venu sauver tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont petits. On aurait pu imaginer ici que Dieu aurait pu sauver quelqu'un de notable dans la ville. Non, Dieu, il va vers celui qui crie à lui, tout simplement, quelle que soit sa condition sociale. Alors que lui disent les espions ? Accroche ce cordon de fil écarlate. Ce qu'ils disent, c'est simplement quelque chose de... C'est une instruction toute simple. Et ça nous parle de la simplicité aussi du salut. La simplicité du salut, il s'obtient par la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si je crois, j'obéis. Ici, l'instruction des deux espions est tout sauf difficile. Accroche. Qu'est-ce que c'est compliqué d'accrocher un bout de fil rouge à une fenêtre ? Non, c'est pas compliqué. Elle avait fait bien plus dur avant en les hébergeant. Il fallait accrocher, mais il fallait quand même le faire. Parce que sinon, la maison n'était pas épargnée. Et ce fil rouge nous parle évidemment, la couleur rouge nous parle à nouveau du sang. C'est la couleur du sang, le rouge. C'est la couleur, le sang, c'est la vie. C'est la couleur de la vie qui a été donnée. On voit ici se dessiner à nouveau. Le fait qu'elle soit épargnée, parce qu'un jour... Il y en a un qui va mourir, et c'est aussi ce que ce bout de fil veut dire dans cette couleur rouge qui ressort. C'est un peu comme les linteaux des portes qui sont aussi peints avec le sang de l'agneau et qui permet à l'ange de l'Éternel, à l'ange destructeur, pardon, de ne pas tuer le fils aîné. c'est la même chose. Ici, ça sera le signe qui permettra à Dieu d'épargner. Cette femme, elle va se retrouver même investie d'une mission, parce qu'elle désire que toute sa famille soit sauvée. Et je crois que c'est la prière de beaucoup, que notre famille, nos proches soient sauvés. Cette femme, elle va aussi devoir grouper sa famille, rassembler les siens, pour qu'ils puissent entendre le message. Elle va avoir un peu de temps. Ils vont voir l'armée tourner. On peut se poser la question, comment la famille, au début, a réagi face aux invitations de Rahab quand elle est allée les voir. Mais venez à la maison, ils vont tourner. J'ai eu la promesse que quand ils viendraient, on serait épargnés. Alors venez chez moi et vous serez en sécurité. Si vous venez pas chez moi, vous ne serez pas en sécurité. Et c'est ainsi qu'elle a dû parler. Et que s'est-il passé dans la famille au moment où le peuple faisait le tour de la ville? Premier jour, j'imagine, c'est ça le jugement de Dieu? Peut-être certains se sont mis à rire. Est-ce que tout le monde a pris au sérieux ce qui était en train de se passer autour de Jéricho dans les premiers jours? On n'en sait rien. Toujours est-il que sa famille s'est quand même laissée convaincre. Et il y a là une merveilleuse promesse pour nous. Comme on peut le lire, c'est écrit dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. C'est ce que l'apôtre Paul dit au geôlier quand il est dans la prison. Il y a une promesse formidable qu'on doit croire, parce qu'elle est écrite. Actes au chapitre 16, verset 30. Il demande ainsi à Paul et Silas, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Cette promesse-là, comment s'est-elle accomplie d'ailleurs? Il n'a pas attendu que dans la tête de sa famille, Dieu leur parle directement. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a cru qu'il avait reçu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a invité ses proches. Il leur a parlé, parce qu'il a cru à la promesse. Et il est rentré dans les œuvres, il est allé à l'action. Il a parlé de Dieu à ses proches. Et Dieu a permis que les proches puissent se donner aussi à Jésus. Cette femme a fait la même chose. Elle a invité sa famille à venir chez elle. Et nous l'avons lu. Le jugement est tombé. La muraille aussi est tombée. Mais la maison de Rahab a tenu. Elle était bâtie sur un autre fondement. Et elle a tenu. La maison de Rahab s'en est sortie. Ainsi, toute la famille a été sauvée. On a là justement la preuve encore que Dieu est prêt à délivrer celui ou celle qui crie à lui. Dieu n'attend que de pouvoir délivrer. Tout le peuple était voué à l'interdit. Et en ce qui nous concerne, la Bible dit que nous sommes tous péchés privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous sous la coupe du jugement. Mais celui qui est droit de cœur devant Dieu, celui qui reconnaît son péché et qui se repent devant Dieu, il peut avoir le même sort que cette femme, à savoir échapper au jugement et être complètement intégrée au peuple de Dieu. Cette femme, sa destinée, c'est d'être intégrée au peuple de Dieu. Et elle va être complètement intégrée au peuple, au point qu'elle fait partie à la fin de la lignée qui engendrera le sauveur du monde. Est-ce qu'on réalise que de prostituée d'une tribu cananéenne qui était vouée à l'interdit, cette femme devient une ancêtre du Christ? Est-ce qu'on réalise à quel point notre vie peut changer, peut basculer? On peut rentrer dans des plans que Dieu prépare et on ne s'imagine même pas l'envergure de ce dans quoi Dieu veut nous faire participer. Pour celui qui est droit de cœur, et j'en reviens toujours là. Si dans le cœur, il n'y a pas cette droiture, s'il n'y a pas cette reconnaissance, cette humilité, on ne pourra pas échapper. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Seigneur, tu vois nos cœurs. Et l'histoire de cette femme, c'est notre histoire aussi à nous, qui, alors que nous étions des pécheurs, tu nous as montré que tu nous aimais. Ta parole nous dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu nous aimes malgré notre péché. Et la solution que Jésus-Christ meurt pour nos péchés nous permet à nous d'être couverts, nous permet à nous d'être protégés du jugement. Seigneur, je te prie maintenant pour que dans les cœurs, tu puisses parler, que tu puisses interpeller. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ce soir et même dans les heures qui viennent, Seigneur, ton esprit puisse ainsi se rappeler au cœur. S'il y a de la dureté dans notre cœur, s'il y a de l'orgueil, s'il y a des envies, s'il y a un manque de confiance en toi, Seigneur, pardonne-nous. Et je te demande pardon, Seigneur, pour nous tous, s'il y a quoi que ce soit dans nos cœurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que si quelqu'un a une décision à prendre devant toi, comme cette femme, elle a dû prendre la décision. Seigneur, je te prie pour que personne ici ce soir ne reste sous la coupe du jugement, mais que parmi nous se trouvent des personnes qui échapperont au jugement éternel. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ton amour. Cette histoire est encore une preuve. Tu es allé chercher la pauvre misérable, celle qui ne pouvait pas finir ses mois, et tu l'as intégrée dans ta lignée. Seigneur, quelle grâce, quel amour. Seigneur, nous voulons aussi te dire merci parce que tu vois notre misère, tu vois notre vie, et tu veux nous tirer de cette vie qui nous fait être loin de toi. Seigneur, aie pitié, Seigneur, de chacun d'entre nous, que tu puisses vraiment, comme le dit ce chant, nous bénir tous. Tu es au milieu de nous, Seigneur, je le crois de tout mon cœur, et je te rends grâce pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen.